Session théologique par le Père Philippe à Saint-Jeaudard, le 10 août 1988, conférence du soir.
Et dans le fond, ils ont l'air d'écouter. J'espère. À mettre en parallèle avec ce petit texte de l'Apocalypse que vous devez connaître, bien que ce soit l'Apocalypse. Chapitre 12, verset 7. Chapitre 12, verset 7. Je ne le verrai pas tout de suite, on le reverra après. Ça se tient. C'est l'origine de la faute. La première faute. Et l'Apocalypse montre que la première faute, elle a eu lieu dans le ciel. C'est pas Ève qui est la plus coupable. C'est Lucifer. C'est l'antique serpent, comme dit l'Apocalypse. C'est le dragon. C'est Satan. Puisqu'il y a trois noms antitrinitaires, le dragon antipère, le serpent antiverbe et Satan anti-Esprit Saint. C'est dans l'Apocalypse, et pas ce que je vous dis comme explication par rapport à la très sainte Trinité, mais les trois noms. Vous voyez, on retrouve le démon au point de départ de l'Écriture. Et au terme. Donc, Dieu se repose, Dieu chôme, le Créateur, le septième jour, chôma. Le serpent, alors, c'est très curieux, hein, il apparaît ici sans se présenter. Symbolise du serpent qui apparaît. Le serpent était la plus rusée de toutes les bêtes des champs que Yahvé Dieu avait faites. Donc, il est fait par Yahvé Dieu. Le serpent. Il ne provient pas d'une autre source mauvaise. Il provient de Dieu. Tout de suite, il intervient. Oui, là encore, vous voyez cet illogisme de tous ces récits à mode mythique. La logique, on s'en contrefiche, ça n'a aucune espèce d'importance. Regarde, tout de suite, le but, c'est de montrer Adam et Ève chassés du paradis terrestre. Alors que Dieu avait créé un petit Éden, merveilleux, des petits poissons rouges, extraordinaires. C'était merveilleux. C'était le paradis. Oui, le paradis, c'est extraordinaire. Et puis, jeté en dehors du paradis. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un drame. Il y a eu une brisure. Alors comment expliquer cette brisure? Troisième personnage, tout de suite, représenté sous le symbolisme du serpent. Et on souligne la plus rusée de toutes les bêtes des champs. Caractère du serpent, c'est la ruse. Le mensonge et la ruse. Le mensonge a commencé avec le serpent. Il dit à la femme, alors Dieu a dit, vous ne mangerez d'aucun arbre du jardin. Voyez le tentateur. Le tentateur, c'est celui qui interroge. Il interroge. On ne dit pas du tout quand ça s'est présenté. Combien de temps Adam et Ève ont vécu dans le paradis? Ça, vous ne le saurez jamais. Sauf quand vous verrez Adam et Ève et vous leur demanderez. Parce que ça ne nous est pas dit. On ne dit pas que Ève commençait à se lasser un peu de la présence d'Adam. Alors, elle aimait bien la télévision. Troisième personnage qui apparaît. Pour se distraire, quoi. Et puis Adam... Adam n'interrogeait jamais Ève. Ah, c'est tout drôle. Voilà quelqu'un d'astucieux qui l'interroge. On aime bien être interrogé. Parce que ça prouve qu'on est capable de répondre. Et il semble bien que Adam ne devait pas interroger beaucoup Ève. Hein ? Je crois qu'il ne faut pas oublier ça. Les hommes, quelquefois, n'interrogent pas assez. Les époux n'interrogent pas assez leurs épouses. Et s'étonnent après qu'elles vont regarder la télévision. Et derrière la télévision, autre chose. N'est-ce pas ? Le serpent est bien caché. Ça, c'est très curieux. Vous voyez ? Et c'est intéressant parce que c'est ça le caractère très particulier du mythe. C'est qu'il saisit tout de suite la vulnérabilité d'Ève. Elle a été créée dans la grâce. Ève, à la fois, l'espérance et la charité. Une grâce de justice originelle. Il y a une harmonie parfaite en elle entre l'esprit et le sensible. Pas du tout hein, quelqu'un qui est un peu déséquilibré. Le démon, le serpent, qui est plus intelligent qu'Ève, et qui n'aime plus. Puisque le serpent, c'est l'ange déchu. Et pour bien montrer jusqu'où va sa chute, alors on prend le serpent. Parce que le serpent, justement, il rampe. Donc il a le ventre sur la terre. Et ça exprime bien l'attitude du serpent. Il est rampant, rusé. La couleur du sol, on ne s'en aperçoit pas. Et on marche facilement sur lui, sans en apercevoir. Et à ce moment-là, il se venge. Ici, un récit symbolique, mythique, de forme mythique. Mais qui exprime une réalité très profonde. Il a tout de suite saisi la vulnérabilité d'Ève. On va aiguiser sa curiosité. On va la mettre dans un état particulier. Il va vouloir la séduire. Ève a été séduite. C'est saint Paul qui nous dit ça. Seducta est. La femme a été séduite. Et il la séduit en l'interrogeant. Donc en l'éveillant sur un domaine sur lequel elle ne voulait pas être éveillée. Parce qu'elle était dans l'habitude, dans l'attitude de celle qui obéit. Il y avait des domaines qu'elle ne regardait pas. Dieu demandait de ne pas les regarder. C'est très simple. Et le serpent fit miroiter à Ève, à l'imagination d'Ève. Il éveille son imagination. En lui disant quelque chose partiellement vrai. C'est toujours comme ça qu'on tente. Quelque chose de partiellement vrai, quelque chose qui est totalement faux, pas de danger, ça ne nous séduit pas du tout. Quelque chose qui est partiellement vrai, oh oui, il y a des connivences. Dieu dit, vous ne mangerez d'aucun arbre du jardin. Il est terrible ce Dieu. Précepte négatif. Et pourtant l'arbre est là. Ils sont là, les arbres du jardin. Ils ont de beaux fruits. C'est très séduisant. Alors, on montre le caractère a priori de la défense de Dieu. Rappelez-vous, la première fois, vous avez désobéi. Quand vous étiez gosse, c'est évident. Ou bien, rappelez-vous, la dernière fois où vous avez désobéi. C'est toujours ce jeu. Oui, quelque chose de possible. C'est pas si bête, après tout. J'avais pas pensé. Vous ne mangerez d'aucun arbre du jardin. Précepte négatif. Vous savez bien que c'est les préceptes négatifs qui sont les plus difficiles, parce qu'ils ont toujours, ils nous donnent toujours l'impression de nous aliéner. Hein? La théorie de l'aliénation. Le bon Freud. Hein? Si vous obéissez, vous vous aliénez. Ce qui est tout à fait faux. Hein? On sera bien obligé, après avoir regardé le venin du serpent, de regarder la vérité. Mais il faut d'abord regarder le venin. La femme dit au serpent, nous pouvons manger du fruit des arbres du jardin. Mais du fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin. Dieu a dit, vous n'y mangerez pas. Vous n'y toucherez pas. Sinon, vous mourrez. Voyez, première réaction. D'Ève. Elle est encore bonne. Elle est encore l'enfant de Dieu. Elle est encore dans l'obéissance. En face de cette propagande d'intellectuels pervertis, ce sont les propagandes les plus terribles. Les propagandes d'intellectuels pervertis. On pense tout de suite à certains journaux. Voyez. Les propagandes d'intellectuels pervertis. C'est exactement ça. Ça excite l'attention. Ah, c'est pas bête. On va regarder quand même. La réaction première d'Ève, elle est saine. Mais tu te trompes, tu exagères. Tout. Les journalistes exagèrent toujours. Un petit peu de vérité. Un tout petit peu de vérité. Et puis, on a exagéré. On amplifie. Alors, Ève réagit bien au point de départ. Faut pas l'oublier. Pouvons manger du fruit des arbres du jardin. Elle en a mangé ce matin. C'est très bien. Nous pouvons manger et nous en vivons. Dans l'état de justice originel, le travail était très simple. Hein. C'était la cueillette. Et les petits animaux, on ne les mangeait pas, ils étaient tellement gentils. Et les arbres fruitiers étaient tellement merveilleux. Nous pouvons manger du fruit des arbres de vie. Mais du fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin. Vous voyez, ça reste symbolique, cet arbre mystérieux. Cet arbre mystérieux, cet arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais du fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, au milieu. Dieu a dit, vous n'y mangerez pas et vous n'y toucherez pas. Sinon, vous mourrez. Donc Dieu a donné un précepte négatif avec une peine à la clé. Voyez, Dieu éduque par la crainte. La sagesse de Dieu qui éduque. Point de départ de la sagesse, c'est la crainte. C'est dit dans l'Écriture et dans les livres sapientiaux. Bien là, vous voyez tout de suite l'application. Pourquoi Dieu a-t-il donné un précepte négatif alors qu'ils étaient purs, qu'ils étaient innocents? Pourquoi Dieu a donné un précepte négatif? Ce fameux précepte à l'égard de l'arbre du bien et du mal. Je crois qu'il y a une grosse question là-dessus. Goûter de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Qu'est-ce que ça signifie? Je reviendrai là-dessus après. Je vais d'abord suivre le texte. Pourquoi Dieu a-t-il fait ça? Dieu éduque. Ils ont besoin d'être éduqués. Parce que s'ils sont innocents, s'ils sont parfaits, ils peuvent devenir plus parfaits. Ils sont éducables parce qu'ils sont nés dans la foi. Ils sont nés dans l'espérance. Et grâce à la foi et à l'espérance, ils peuvent progresser dans la charité. Et le précepte négatif, c'est une épreuve. Dieu qui sonde les reins et les cœurs. C'est jamais drôle un précepte négatif. Vous garderez le silence. Précepte négatif. Vous garderez le silence. Il suffit qu'on dise ça pour qu'on ait grande envie de parler. On est tous comme ça. C'est très drôle. Sauf quand on est très pris par une réflexion intérieure, par un secret qu'on porte dans son cœur. Alors, cela, on n'a pas envie de parler. Mais voyez, l'éducation de Dieu, elle est très très belle. Vous ne mangerez pas et vous n'y toucherez pas, sinon vous mourrez. Dieu éduque par un précepte négatif et par la crainte. La crainte. Adam et Ève ne devaient pas mourir. Mais c'est possible qu'ils meurent. Et Dieu leur rappelle ça. C'est possible. Donc ne pas mourir, c'était une grâce de Dieu. Une pure grâce. Les pères de l'Église ont beaucoup, beaucoup travaillé ce passage. Et saint Thomas aussi, à la suite des pères de l'Église. Et on comprend très bien. Ce sont les modernes qui n'aiment plus beaucoup ça. Alors que c'est plus intelligent que toutes les élucubrations de quantité de théologiens. C'est plus intelligent parce que c'est primitif. On aime le primitif aujourd'hui. Et quand Dieu joue le haut primitif, c'est fameux. Alors là, Dieu joue au primitif. Il prend un langage très simple, symbolique, mythique, pour nous faire entrer dans le premier acte de péché. Et montrer que ce péché, Ève ne l'a pas fait toute seule. Il y a eu un tentateur. Et elle a été séduite. Et parce que justement, elle n'a pas péché toute seule, elle n'est pas totalement coupable. Vous savez, dans une grande famille, quand les aînés commencent à se dissiper, prendre un peu de large, ils veulent entraîner les cadets. Ça se voit tout de suite. Les aînés jouent au grand. Le serpent, il joue au grand. Ah, tout à fait. Il a sa redingote de serpent. C'est extraordinaire, on voit très bien, il joue au grand. Et Ève, quand même un peu intimidée devant le serpent, quelqu'un de beaucoup plus intelligent qu'elle, et elle le sent tout de suite. Et là, elle dit la vérité. Et en disant la vérité, elle nous livre le secret. Ah, c'est très curieux. Elle nous livre le secret. Le démon ne savait pas très bien. Il avait une connaissance, on dirait aujourd'hui, globale. C'est curieux du reste, hein. Tu as dit, vous ne mangerez d'aucun arbre du jardin. C'est pas juste. Et Ève le dit tout de suite. Donc la connaissance du démon sur Adam et Ève, elle est globale. Et Ève livre le secret. Vous n'en mangerez pas du fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin. Autrement, vous mourrez. Le serpent dit à la femme, pas du tout. Alors lui, il va carrément. La psychologie du démon, elle est assez grosse. Ah, elle est assez grosse. C'est la psychologie de l'orgueilleux. Et la psychologie de l'orgueilleux, c'est assez gros, vous savez. On a tous rencontré des orgueilleux dans sa vie. Et on se rend compte soi-même. Et la psychologie, elle est fondée sur l'orgueil. C'est très, très curieux, ça. On va revenir là-dessus, parce que c'est très intéressant, ça, pour comprendre ce que c'est que la psychologie moderne. Le serpent dit à la femme, « Pas du tout, vous ne mourrez pas. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux se désireront et vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. » Le démon, après avoir interrogé humblement, faussement humblement, ici, tout de suite, il joue au prophète. Il joue au prophète en faisant une herméneutique de la parole de Dieu. C'est ça que j'aime beaucoup ce passage. La première herméneutique de la parole de Dieu, c'est le démon. L'herméneute, vous voyez, c'est ce que c'est, hein, c'est l'interprète, l'exégèse. Le premier exégète de la parole de Dieu, c'est le démon. Je me souviens toujours de ce que disait le cardinal Journet. À un moment, c'était le début, on parlait tout le temps du dialogue, du dialogue, du dialogue, du dialogue. Il fallait dialoguer, il fallait dialoguer. Alors le cardinal Journet dit, oui, très bien le dialogue. Mais n'oubliez pas le premier dialogue entre Ève et le serpent. Ça aboutit à quelque chose qui n'est pas très fameux. Il y a dialogue et dialogue. Il y a des dialogues qui impliquent une coopération de la recherche de la vérité. Les carrefours. Vous dialoguez dans les carrefours. Et vous recherchez la vérité. Alors c'est très bien. Et puis il y a des dialogues où on ne recherche pas du tout la vérité. On est là, au contraire, pour détourner. Faire un détournement de mineur. C'est exactement ça. Petite Ève. Aucune expérience du mal. Se trouver subitement en face de l'astuce du démon. Cachée avec une force, puis une précision. Et une autorité. Pas du tout. Vous voyez l'autorité. Vous ne mourrez pas. Donc, il s'oppose tout de suite à l'affirmation de Dieu. Vous ne mourrez pas. Plus gros des blasphèmes. Ça veut dire Dieu est un menteur. Et Dieu est un tyran. Le pourrait dire en celle démon. Il projette toujours ça sur Dieu. Dès que vous êtes en face de préceptes négatifs, vous dites tout de suite, c'est un tyran. Vous voyez bien, on a des quantités d'exemples de ça. C'est tellement actuel, ça. Dès que tout simplement, on dit, mais oui, on gardera le désert tel jour, on ne parlera pas. C'est tyrannique. Mais non, c'est tyrannique quand c'est pour le bien du tyran. Mais quand c'est pour le bien de ceux qui acceptent ce précepte négatif, c'est libérateur. C'est libérateur. Pas du tout, vous ne mourrez pas. Mais Dieu sait. Hein ? Voyez ? Il se fait le frère, le fils aîné. Le fils aîné qui connaît les secrets. Et les petits benjamins ne les connaissent pas. Parce que le fils aîné, il connaît. Oui, les aînés, ils connaissent bien. Ils mangent à la table des parents. Tandis que les petits benjamins, les petits derniers, ils ne savent pas. Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront. Et vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Très extraordinaire, cette manière d'inverser complètement la signification de la parole de Dieu, de donner un tout autre sens. On en fait l'exégèse. Mais vous voyez, cette exégèse ne repose pas sur la parole de Dieu qui est unie à la sagesse de Dieu, mais cette exégèse repose sur une hypothèse qu'on affirme comme une réalité. Dieu sait. Voilà. Il joue au prophète comme si Dieu lui avait communiqué le grand secret. Il a un droit d'être prophète. Il est un frère aîné. Il connaît beaucoup mieux. Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront. Et vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Adam et Ève avaient une promesse de ressembler à Dieu, de devenir comme des dieux. Ils avaient la promesse de la vision béatifique. Ils avaient cette promesse, ils savaient très bien qu'ils étaient des fils de Dieu, appelés à la vision béatifique, et à devenir alors semblables à Dieu, d'être donc comme des dieux. Le démon le sait très bien, ça. Il joue là-dessus. Il le sait parce que lui-même a vécu de ça. Il a connu cette promesse. Il ne sait pas très bien si Adam et Ève l'ont. Non, ça il ignore. Mais il va essayer de savoir. C'est plein d'astuces, c'est extraordinairement astucieux. Surtout si vous essayez de dégager la logique de cette petite conversation. C'est une dialectique. C'est le point de départ de la dialectique. C'est assez extraordinaire. La thèse, vous mourrez. Non, vous ne mourrez pas. Tout de suite. Et on part de ces deux points de vue-là. Pour montrer ensuite la synthèse. Vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. C'est extrêmement astucieux. Et c'est vraiment le faux prophète, le faux sage qui essaie d'inculquer son venin. Vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. voyez, du côté de la curiosité, exciter la curiosité. Une curiosité qui conduit à l'orgueil. Vous êtes des esclaves de Dieu. Vous êtes des esclaves de Dieu. Eh bien, moi, je viens vous libérer. Théologie de la libération, qui est toujours par mode dialectique. Toujours. Ça ne peut pas être autrement. Vous êtes des esclaves. Eh bien, moi, je viens vous délivrer. Écoutez-moi, vous partez d'une fausse affirmation. La véritable affirmation, c'est que Dieu sait que le jour où vous en mangerez, donc Dieu a tellement peur que vous en mangez, qu'il l'interdise et qu'il vous met dans la crainte. Il vous traite comme des gosses. Il vous traite comme des esclaves. Il a peur de votre libération. Et moi, je viens vous libérer. Et je viens vous libérer en vous livrant le grand secret. N'êtes pas si bête. Dieu a peur de vous. Vous allez très loin. Vous êtes très intelligent. Et vous irez très loin. Mangez du fruit de cet arbre. Du fruit défendu. Ça a toujours un certain attrait. Hein, on sait bien. Manger du... Parce que ça monte à partir de ce moment-là qu'on a une autonomie parfaite. On ne dépend plus de personne. Donc, on vit librement. On fait ce qu'on veut. On connaît le bien et le mal. Et on peut le choisir comme on le veut. On fait absolument ce qu'on veut. Oui, la libération de ce joug, ne pas manger de l'arbre qui est au milieu. Alors là, elle est mordue, la femme. Séduite. La femme vit que l'arbre était bon à manger. Donc, elle a reçu le venin. Et elle se met à regarder l'arbre. La pente glissante. Hein? On a quitté le ferme propos d'obéir à Dieu. Après tout, il y a peut-être une autre voie. Elle n'avait qu'une seule voie pour elle, obéir, pour aimer plus. Peu importe ce que Dieu demande, c'est aucune espèce d'importance, c'est rien du tout comparativement à la promesse de Dieu. C'est rien du tout comparativement à la promesse de Dieu. Vous serez comme des dieux, vous verrez Dieu. Dieu n'a pas dit la connaissance du bien et du mal, la connaissance du bien de celui qui est bon, de celui qui n'est que bon. Vous voyez, la dialectique divise, connaissance du bien et du mal. Le démon va promettre plus. Vous serez comme des dieux, connaissance du bien et du mal. Donc, il reprend ce que Dieu a promis. Et en plus, il libère du joug de l'obéissance. Et il libère complètement. Pour libérer complètement, il remonte jusqu'à Dieu. Dieu sait. Et le serpent sait. Et tous les deux savent très bien que le jour où vous en mangerez, vous ne mourrez pas. Vous serez comme des dieux. Tout de suite, immédiatement. Pas la peine d'attendre. Voyez, la tentation, c'est le chemin le plus rapide. La voie d'accès immédiate. La voie express. Toute voie express n'est pas mauvaise. Hein? Mais à la voie express, à ce moment-là, on se précipite immédiatement. C'est très habile. essayer de découvrir les vulnérabilités du cœur d'Ève que le démon met en pleine lumière. Le démon ne peut pas sonder le cœur d'Ève. Dieu seul sonde les reins et les cœurs. Mais il soupçonne, le soupçon, il soupçonne, il devine. Elle doit être comme ça. Pas absolument sûr, hein, c'est la foi, elle est dans la foi. On peut chasser la foi et l'espérance. Il en a l'expérience, le démon. Il a perdu la foi et l'espérance. Donc c'est très bien. C'est possible. Et pour ça, il faut dévier. Le démon n'attaque pas directement, vous voyez, la foi et l'espérance. Mais il joue un jeu de déviation, de faux prophètes. La femme vit que l'arbre était bon à manger et qu'il était agréable aux yeux. Avoir trouvé la bonté et la beauté. Jumelés ensemble ici. Agréable aux yeux. Qu'est-ce que c'est que le beau? Ce qui est agréable à la connaissance, à la vision. C'est comme ça que saint Thomas définit le beau. À partir de ce texte de la Genèse, hein, le beau, c'est ce qui est agréable à être vu. Chose agréable à regarder, ça c'est le beau. C'est l'aspect subjectif du beau, vous voyez. C'est l'aspect subjectif, c'est pour ça que la beauté, on n'est pas sensible à toute espèce de beauté. C'est très curieux. Il y a des sensibilités diverses. Il y a tout un aspect subjectif. La femme vit que l'arbre était bon à manger. Séducta, elle est séduite. Qu'il était agréable aux yeux. Et qu'il était cet arbre désirable pour acquérir l'intelligence. Ah, voilà. Le démon a fait comprendre à Ève que la voie de l'intelligence était plus rapide que la voie de l'obéissance. C'est là où il y a inversion. Et ça nous fait comprendre ce qu'est le démon, parce qu'il agit semblablement à ce qu'il est. Vous savez le vieil adage, agens, agite, simile, sibi. Alors ne traduisez pas l'agent. Parce qu'on pense tout de suite à un agent de police. L'agent agit selon ce qu'il est. Vous voyez ? Agens, l'agent, celui qui produit quelque chose, celui qui fait quelque chose, celui qui est cause efficiente, celui qui travaille. Il agit simile sibi. Semblablement à lui-même, semblablement à l'idée qu'il s'est faite de l'œuvre qu'il devait réaliser. Et cette idée, il la porte en lui. Et donc, on découvre ce qu'est le démon à la manière dont il agit, la manière dont il tente. Vous voyez ? C'est pour ça que ce texte nous révèle les vulnérabilités d'Ève. Et ce qu'est le démon. Pour le démon, il a choisi la primauté de l'intelligence. Le démon, quand il a été éprouvé par Dieu, le démon n'a plus accepté ce que Dieu voulait faire, voulait réaliser un chef-d'œuvre d'amour, de bonté. C'est quand Dieu, le Dieu créateur, le Père, a révélé à Lucifer son désir de prolonger la création, de ne pas s'arrêter aux anges, et de prolonger sa création pour réaliser son chef-d'œuvre, l'homme et la femme. Un chef-d'œuvre qui n'est plus un chef-d'œuvre d'intelligence, mais qui est un chef-d'œuvre d'amour. La femme, chef-d'œuvre d'amour. Le démon, à ce moment-là, dit non. C'est impossible. Dieu est trop bon. Qu'il regarde davantage son intelligence et sa sagesse. La hiérarchie des valeurs repose sur l'intelligence et non pas sur l'amour. Voilà ce que Lucifer a préféré. Il a refusé que l'amour puisse passer avant l'intelligence. Cela, c'est la grande faute d'orgueil. L'orgueil consiste à vouloir que toujours l'intelligence soit première. Notre intelligence, notre jugement, notre manière de regarder les choses, qu'on soit toujours premier. Tolère pas qu'un autre passe devant nous. Quand on est dans la série, ne pas tolérer qu'un autre passe devant, c'est ça l'orgueil. C'est l'intelligence qui ne tolère pas qu'il y ait quelqu'un devant. L'orgueil est un péché volontaire dont la matière est l'exaltation d'intelligence. On veut que l'intelligence soit tout le temps première. On n'accepte pas que quelqu'un de moins intelligent, mais de plus aimant, passe devant. Les petits derniers, ceux qui ont la peau rouge, Adam, terre rouge, poussière, terre rouge, ça veut dire ça, Adam. Terre rouge. Un ange avoir comme frère et sœur des peaux rouges. Pour un esprit intelligent. Ben non. Mais c'est curieux, hein. C'est très curieux, de voir cette espèce de. Je peux pas dire là un racisme. Là. Premier racisme, il est là. C'est sûr qu'il est là. L'espèce angélique quand même à côté de l'homme et de la femme, quoi. Ces gens qui ont une peau rouge. Et s'ils savaient qu'il y aurait d'autres peaux, je sais pas ce qu'ils auraient fait encore plus. Adam, uniquement. Dieu va créer quelque chose d'autre. Refuse. Non serviable. Jamais. Je les laisserai passer devant moi. Jamais. Dieu peut passer devant. Mais pas quelqu'un d'autre. C'est la hiérarchie intellectuelle que le démon veut à tout prix. C'est ça l'orgueil. Alors, quand il tente en orgueilleux, il ne peut pas faire autre chose. Et tenter en orgueilleux, c'est faire comprendre à la femme que l'obéissance n'est acceptable que quand on a mis le primat de l'amour. Ça, c'est sous-jacent. Hein. S'il y a un primat d'amour, on peut obéir. S'il y a un primat d'intelligence, on n'obéit jamais. Parce que celui qui me commande, quoi, pas plus intelligent que moi, puis il me connaît moins bien que moi. Donc c'est une bêtise d'obéir. C'est une aliénation. L'obéissance n'est tolérable qu'à cause de l'amour. Dès qu'on aime, l'obéissance est facile. On aime d'obéir à celui qu'on aime. Ça, c'est bien évident. Si vous n'avez jamais fait cette expérience-là, faites-la un jour, je vous en supplie. Obéissez à quelqu'un que vous aimez. Et dites, je t'obéis parce que je t'aime. Et j'aime de t'obéir pour montrer que je t'aime. C'est ma seule manière de montrer que je t'aime. Si vous m'aimez, vous observez mes commandements. C'est Jésus qui dit ça. Si vous m'aimez, vous observerez mes commandements. Si vous m'aimez, vous obéirez. L'obéissance religieuse, l'obéissance chrétienne, n'est acceptable qu'à cause de l'amour. Et à cause de l'amour, elle est recherchée. On aime d'obéir parce qu'on aime. Parce qu'on aime la personne qui nous commande. Alors voyez ici, le venin du démon qui a pénétré dans le cœur de la femme. Elle prit de son fruit, juste avant, et qu'il était cet arbre désirable pour acquérir l'intelligence. En désobéissant, elle se libère de la tutelle. Elle va devenir intelligente. Prit de son fruit et mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était avec elle. Adam n'a rien dit. Je ne sais pas s'il a entendu quelque chose entre le serpent et la femme. Oh, ça ne devait pas se passer en face de lui. Le serpent agit toujours par derrière, vous savez bien. Quand on voit un serpent avancer devant, on le regarde, hein. Il est plutôt par derrière. Hein. Donc elle s'est retournée. Elle lui a parlé. Elle a fait le geste. Tout ça devait se passer dans un lieu très net, hein, pas loin de l'arbre, au centre. Et Adam n'a pas bougé. Elle en donna aussi à son mari, qui était avec elle, et il mangea. Ah. Adam n'a pas été séduit, il était faible. Prière refusée, Ève. Dieu avait dit, vous n'en mangerez pas. Et Ève, présente sur un plateau d'or, dans ses mains, elle présente ça avec le sourire. On voit très bien comment ça s'est passé. Hein. Oui, il y a une sobriété, mais on touche, hein, éveillé en Adam. Et l'orgueil d'Ève et l'orgueil d'Adam sont très différentes. Et tous les deux désobéissent. Alors, leurs yeux s'ouvrirent à tous deux. Et ils connurent qu'ils étaient nus. Comprenons bien ça. Hein. le fruit immédiat de l'orgueil, c'est le repliement sur soi. L'orgueilleux se voit tout le temps. Au monde, qu'un seul être intelligent, moi. C'est bien évident. Il n'y a que moi. Tous les autres, je les mesure en fonction de mon intelligence. Il n'y a qu'un seul être qui est beau, moi. C'est pour ça que je me mire. C'est pour ça que je me regarde. Et l'orgueil, c'est le repliement sur soi, la subjectivité absolue, érigée en absolu. Le primat de la subjectivité, c'est le fruit direct de l'orgueil. Ils connurent qu'ils étaient nus. Ça va très loin, ça, parce que c'est symbolique. C'est évident. C'est un langage symbolique. Quelque chose de profond. Ils ont perdu l'amour. On est nu intérieurement quand on n'aime pas. Quand on a perdu l'amour. Ça, c'est la nudité intérieure. C'est la nudité terrible. C'est extraordinaire, ça. La nudité du cœur, on n'aime plus. Et cousant des feuilles de figuier, ils se mirent des bagnes. Conséquence immédiate. On se fait des petits habits. Voyez, mais c'est rigolo, c'est, j'allais dire, c'est source de fou rire. Quand on voit la gravité de la faute, et la conséquence. Des petits pagnes qui poussent. À partir de la désobéissance et de l'orgueil. Il faut comprendre ça. Hein. C'est ça que Dieu veut nous faire comprendre. Hein. L'orgueilleux qui s'exalte perd tout. Il n'y a plus que lui. Il est seul. Il ne peut plus faire qu'une seule chose. Son invention se porte là-dessus. C'est étonnant. Vous savez, saint Thomas dit des choses analogues, pas tout à fait du même style, mais analogues. Il se pose la question que quelqu'un qui naît dans le péché originel, qu'est-ce qu'il peut encore faire de bon sans la grâce? Et il dit, planter des vignes. Il est italien. Planter des vignes. Construire des maisons, pas plus. Non, pas la même chose. Ils entendirent le bruit des pas d'Yahvé, de Yahvé Dieu, qui se promenait dans le jardin. Tiens, il ne chôme plus ici. Terminé. On recommence une autre semaine. Ils entendirent le bruit des pas d'Yahvé Dieu, qui se promenait dans le jardin. C'était vrai, c'était un jardin commun. C'était merveilleux. Un jardin contemplatif. Dieu était là, au milieu. Donc, c'était contemplatif. Il regardait Dieu, il contemplait. C'est étonnant, la familiarité avec Dieu. Et alors la familiarité avec Dieu, on la comprend au moment où on la perd. C'est comme ça la contemplation. C'est tellement simple. Regardez Dieu, mais c'est la chose la plus simple qui soit. Que Dieu se promène avec les hommes, c'est pas étonnant, c'est le chef-d'œuvre de Dieu. Un artiste se promène au milieu de ses œuvres, ça ne gêne pas. Ça ne gêne pas et ça ne gêne pas les œuvres. Parce qu'ils sont en code naturalité. Et Dieu se promenait avec eux. la promenade habituelle, vous voyez, le carrefour, hein, avec eux, se promener avec eux. Alors ici, ça prend une autre tournure. Ils entendirent le bruit des pas d'Yahvé qui se promenaient dans le jardin à la brise du jour. Le soir, il y a une détente. Et Dieu venait. Ils se cachaient. L'homme et sa femme. Première fois qu'on dit ça. Et les siennes, hein, ils ont péché ensemble. Ils sont noués ensemble dans leur peur. Vous savez, quand on a peur, on veut s'appuyer sur quelqu'un. Et il semble que l'homme ait eu plus peur que la femme. Pas étonnant. Il avait l'autorité. Et il n'a pas obéi. Il n'a pas respecté la consigne. C'est sa femme à ce moment-là. Il veut s'appuyer sur elle, se cacher derrière elle. De devant, il y avait Dieu. Ils se cachèrent, l'homme et sa femme. Donc il s'est caché derrière sa femme. Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu ?» Il dit, « J'ai entendu le bruit de tes pas dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu. » Je me suis caché. Il n'est plus le chef-d'œuvre de Dieu. Il n'est plus le chef-d'œuvre de Dieu. Il y a quelque chose de brisé. Il est nu. Il n'y a plus que lui. Tout ce qui faisait qu'il était fils de Dieu est tombé. Il est dans la nudité. Et je me suis caché. Il dit, qui t'a appris que tu étais nu ? Aurais-tu mangé de l'arbre dont je t'avais ordonné de ne pas manger ? L'homme dit, c'est la femme que tu as placée près de moi qui m'a donné de l'arbre et j'ai mangé. Vous voyez, l'orgueil divise. Même s'il s'appuie sur elle, non, c'est elle qui doit porter le péché. C'est elle, la coupable. Il avait dit à la femme, « Qu'as-tu fait là ?» La femme dit, « C'est le serpent qui m'a dupé et j'ai mangé. » Conséquence du péché, impossibilité de garder la responsabilité de ses actes. Et immédiatement. Vous voyez les conséquences. L'orgueil, on se replie sur soi, on est dans la nudité. Cette nudité fait qu'on a peur de Dieu. On a peur, on n'est plus lié à lui. Alors on se cache. Et quand Dieu montre la faute, ah, c'est l'autre. C'est la femme. C'est le serpent. Yahvé, Dieu, dit au serpent, parce que tu as fait cela, maudit sois-tu entre tous les bestiaux et toutes les bêtes des champs. Sur ton ventre tu marcheras. Alors est-ce qu'avant il ne marchait pas sur son ventre ? Délicat, comme problème. Vous voyez, c'est très facile une fois qu'on comprend tout simplement que c'est un style mythique. Si vous prenez ça avec le sérieux de Descartes et le sérieux d'une logique cartésienne ou le sérieux de la logique de Port-Royal, impossible qu'il soit vrai, on se tirait les cheveux, comment ? Alors avant, oui, il y a un serpent qui se levait tout droit. Je ne sais pas comment il marchait, mais il se levait tout droit. Il voulait atteindre les yeux d'Ève, le brillant des yeux d'Ève. Non, on est dans un style mythique. Maudit sois-tu entre tous les bestiaux, sur ton ventre tu marcheras, et poussière tu mangeras tous les jours de ta vie. La contemplation, elle est loin. Le beefsteak tous les jours, c'est la poussière. C'est ça. Rien prendre d'autre. Les petits rats, les gros rats, les... Non, poussière. Le sourire comme ça. Je mettrai de l'inimitié entre toi et la femme. Vous avez des complices ? Eh bien, vous verrez la conséquence. La conséquence, c'est une inimitié. Tu ne pourras plus la souffrir et elle ne pourra plus te souffrir. Parce que tu as fait cela. Je mettrai de l'inimitié entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Celle-ci, la descendance de la femme, te visera la tête. Et toi, tu la viseras au talon. Un duel entre la descendance de la femme et la descendance du serpent. On continuera demain. J'aime mieux laisser uniquement le démon, laisser... Les punitions viendront demain pour l'homme et la femme.